you really ready?
You can't be serious. You cannot be serious.
J'adore le tennis.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Oxytennis, votre rendez-vous mensuel du tennis en Haute-Garonne et tout autour sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Roland Garros va débuter le dimanche 24 mai avec le premier tour des qualifications. Les organisateurs innovent en appliquant une parité entre les tableaux masculins et féminins. 128 joueuses tenteront donc de faire partie des 16 qualifiées pour le grand tableau.
15-0.
Sans aucune victoire en finale depuis le début de la saison, le tennis féminin français ne se présente pas sous un jour favorable pour briller à la porte d'Auteuil dans cette édition 2021. Les tricolores ne sont que 4 dans le top 100 WTA, avec Fiona Ferro, première française à la 49e place mondiale. Guère plus encourageant pour les messieurs, qui alignent de nombreuses défaites précoces lors des tournois majeurs sans décrocher de titre. Nos champions vieillissent. Sur les 11 Français du top 100 ATP, seuls 3 sont sous la barre des 30 ans pour un groupe dont la moyenne d'âge dépasse 31 ans. À effectif égal, l'Espagne fait un peu mieux avec 5 joueurs sous le seuil des trentenaires. Les 10 Italiens dominent le top 100 avec 8 joueurs à moins de 30 ans.
30-0.
Le classement ITF dévoile un autre regard d'après les résultats dans les tournois futurs, la troisième division du tennis mondial. Nos dames ne sont que 4 dans le top 100. Carole Monnet, qui pointe à la 13e place ITF, est 388e au classement WTA. Pour les garçons là, il n'y a pas photo. 18 Français dans le top 100, avec Hugo Gaston à la première place du classement ITF et au 149e rang à l'ATP. Sauf quelques éclats, nous devons encore attendre quelques années pour trouver des successeurs à Marie Pierce et Yannick Noah. Les Hauts-Garonnais cartonnent sur le Challenger Tour, et c'est le Stade Toulousain qui mène le bal. Benjamin Bonzi, 115e mondial, gagne le tournoi d'Ostrava. Sadio Doumbia et Fabien Reboul s'imposent en double à 2 reprises à Rome, où Hugo Gaston avait atteint la finale. Énorme perf d'Arthur Cazaux, classé au-delà de la 600e place qui bat Sébastien Corda, 65e à l'ATP, au premier tour des qualifications à Madrid. Associé à Tim Putz, Hugo Nys de Blagnac s'impose en double au tournoi ATP d'Estoril. En paratennis, n'oublions pas Guilhem Lager du TC Gros du Roi, classé 68e mondial, vainqueur en finale de la Plock Cup en Pologne. Une belle histoire pour conclure ce tour d'horizon du circuit pro. Nous sommes à Naples, en Floride, lors d'un tournoi féminin doté de $25,000, très loin du circuit majeur. Lors du premier tour du tableau des qualifications, la Française Stéphanie Fiquet, 796e mondial, doit affronter Gail Falkenberg. Gail qui ? Tiffany fait des recherches, téléphone à son coach en France, connaît pas. Enseignement pris auprès d'un coach local, Tiffany apprend que sa future adversaire a 74 ans. Bien évidemment, le score a été sans appel, et dans une vidéo, Stéphanie a commenté cette rencontre avec un immense respect pour son adversaire qui a été classé à la 360e place mondiale avant d'entraîner les équipes de l'Université de Floride. Depuis mars dernier, Philippe Belou a été élu à la présidence de la Ligue Occitanie. Philippe est loin d'être un inconnu dans le landerneau du tennis occitan, avec 2 décennies passées au service de tennis en Haute-Pyrénées et à la vice-présidence de la Ligue. Ce bigourdan connaît parfaitement le tissu tennistique régional de 806 clubs des 13 comités départementaux.
Bonjour Philippe Belou.
Bonjour.
Vous prenez la présidence de la Ligue Occitanie alors que le tennis traverse une crise sans précédent. Constatez-vous une érosion du nombre de licenciés au plan national et plus précisément dans notre Ligue ?
Oui, bon, mais il est évident que la crise que l'on a depuis le mois de mars dernier a affecté le nombre des licenciés, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau Ligue. Bien entendu, les fédérations n'ont pas toutes les mêmes difficultés. Nous, on est en dessous des moyennes nationales en termes de pertes, donc on supporte mieux peut-être que d'autres sports. C'est des caractéristiques. On peut jouer à l'extérieur, il n'y a pas de contact, et il y a eu des autorisations de jouer à l'extérieur depuis un certain temps. Donc notre érosion est moins forte au niveau fédéral pour le tennis que dans d'autres fédérations. Au niveau ligue, on a des disparités entre les départements parce que, bien, par exemple, la zone méditerranée se comporte mieux en termes de nombre de licenciés que la zone Pyrénées parce que, ben, on est plus habitué à jouer en zone méditerranée à l'extérieur que en Pyrénées. C'est aussi une question de climat, c'est une question d'infrastructure, etc., etc. Mais je trouve que la fédération, certes, perd des licenciés, mais je trouve que la crise, on la passe pas trop mal.
Est-ce que l'érosion des licences se fait jour au niveau des écoles de tennis et au niveau de la formation?
Oui, les pertes de licences, elles ont été à tous les niveaux. Les enseignants professionnels, comme les bénévoles qui s'occupent aussi un peu d'enseignement des écoles de tennis, ont fait beaucoup d'efforts pour que fidéliser les enfants. Là, nous avons eu, sur la période des 4 dernières semaines, des stages qui ont été partout. Il y avait beaucoup de monde dans ces stages, beaucoup d'enfants, parce que, ben, toujours pareil, on pouvait pratiquer le tennis à l'extérieur. Il faisait assez beau. J'étais, moi, à côté méditerranéen, j'ai vu des cours remplis de jeunes parce que, ben, on rattrapait les heures qui n'avaient pas pu être faites pendant l'hiver. Et donc, il y avait un engouement certain sur ces dernières périodes-là pour le tennis.
Le tennis français professionnel ne s'impose plus dans le circuit mondial. Malgré quelques victoires sporadiques, la relève peine à confirmer. La FLT doit-elle envisager de nouvelles initiatives pour préparer nos jeunes espoirs au très haut niveau? Et quels seront les moyens mis en œuvre au stade de la détection?
Donc aujourd'hui, il est évident qu'il y a un creux de génération. On n'a pas assez félicité ceux qui ont été appelés peut-être les quatre mousquetaires un peu trop tôt, parce qu'ils n'ont pas, hormis une victoire en Coupe Davis, il n'y en a aucun qui a gagné un grand chelem. Mais on a eu une génération extraordinaire, puisqu'on a eu 4 à 5 joueurs dans les 20 premiers mondiaux, et on était la première nation mondiale. Aujourd'hui, cette génération, d'abord, elle est tombée sur le fameux trio Djoko, Nadal, Federer, qui ont trusté les titres, sans oublier Murray et d'autres. Hein. Et donc, eux, ils ont pas franchi la dernière marche en termes de victoire en Grand Chelem. Et cette génération-là, aujourd'hui, ils ont tous entre 33 et 36, 37 ans. La génération suivante, ben, j'allais dire, c'est peut-être une génération un peu perdue, parce que ben, on n'est pas au même niveau. Et il y a des jeunes qui commencent à pointer le nez, comme Hugo Humbert, comme notre Gaston régional. Et on a quelques résultats par-ci par-là de jeunes qui commencent à arriver, mais je pense qu'on a un certain retard. Maintenant, il y a eu une politique fédérale sur les 4 dernières années qui était beaucoup basée sur la compétition, sur les résultats dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, même si le plan de formation de Nicolas Escudé n'est pas encore sorti médiatiquement, puisqu'il est en présentation entre hier soir et demain entre les membres de la DTN, donc Direction Technique Nationale, et le Conseil des Présidents de Ligue demain matin, auquel j'assisterai, on le sait déjà que sa priorité, c'est la formation, c'est la détection. Puisqu'il dit que à moins de 12, l'objectif principal, c'est la formation du joueur. Que tout ce qui n'est pas fait à ce moment-là, eh bien, est perdu. Et que les projets sur le haut niveau ne s'ouvriront que plus tard. Parce que, ben, avant 12 ans, c'est la formation qui compte, c'est la détection, bien sûr, chez les plus petits. Et donc, il veut recadrer les missions des conseillers sportifs départementaux et des conseillers techniques régionaux sur cette détection, sur cette formation du joueur avant 12 ans.
C'est effectivement bien ce que dit Gilles Moreton, qui dit effectivement, là, nous allons planter la petite graine et il va nous falloir 5, 10, 15 ans, nous avons, voilà, pour l'arroser et l'avoir grandir et pousser, quoi.
Oui, c'est-à-dire que toute compétition, qui était un peu prônée par l'équipe précédente, sur les moins de 12, eh bien, elle va être un peu en dessous. Et bien entendu, on va travailler sur la formation et sur la détection.
Les dispositifs prévus le 19 mai dans les clubs vous semblent-ils compatibles avec la reprise des tournois amateurs? Un couvre-feu à 21h risque de pénaliser l'organisation des matchs en soirée, sans compter l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. La FFT est-elle en position pour négocier ces mesures avec les autorités?
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de négociation. La reprise du 19 mai ne veut pas dire, à mon sens, au sein de la fédération, la reprise de la compétition. Il est bien évident qu'il va falloir, comme vous l'avez dit dans votre question, aménager un certain nombre de choses si la compétition peut reprendre dès le 19 mai. Et puis je ne vois pas comment on puisse dire on reprend la compétition du jour au lendemain. Il y a quand même, surtout à un certain niveau, un besoin d'entraînement, j'allais dire, tout le temps, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, parce que bon, la météo a quelques caprices, pour pouvoir rejouer en compétition. Il est bien évident aussi que la Fédé négocie là-dessus. Bon, pour l'instant, que ce soit l'ancienne mandature ou la nouvelle, sur l'ouverture des courts couverts, alors qu'il n'y a que deux joueurs sur 600 mètres carrés, n'a jamais abouti. Il y a cette négociation qui est en cours. Il y a l'autre négociation aussi qui prend beaucoup de temps, c'est Roland-Garros, et quel jauge il y aura à Roland-Garros. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, oui, la compétition va reprendre le 20 mai, oui, il va y avoir des dérogations pour le couvre-feu. Je trouve ça un peu compliqué. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux pour les négociations. Je sais qu'elles existent, et pour la reprise de la compétition amateur, et pour la jauge à Roland-Garros. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire davantage.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe.
Merci beaucoup. Bonne journée.
40-0. Ce lundi débute l'ENGIE Open féminin de Saint-Gaudens, doté de 60 000 dollars de prix. Les compétitions se dérouleront sous des contraintes sanitaires drastiques d'encadrement des participants, à huis clos, sans public. Vous pourrez néanmoins suivre les rencontres en direct en vous connectant sur openst-gaudens.fr. Michel Burnet nous a confirmé la présence de 4 joueuses du top 100 et de Océane Dodin, actuellement 117e mondiale. Léolia Jean-Jean du Stade Toulousain est également engagée. Canal Plus lui consacre un reportage qui sera diffusé samedi 8 mai à 19h. À partir du 19 mai, en fonction des obligations sanitaires qui s'imposeront aux organisateurs, des tournois sont programmés dans les semaines à venir. Open de Roquette à partir du 29 mai, Carbone et Rio Volvestre tout début juin. Vous pouvez déjà vous inscrire dans TenUp et vous renseigner auprès des clubs organisateurs. L'intention prime sur l'action. Dans cette nouvelle chronique, Vincent, notre coach, aborde l'initiative en fonction de vos capacités. Bonjour Vincent.
Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça vous parle ? Au tennis, on dira plutôt que l'intention prime sur l'action. Aujourd'hui, je vous propose donc de développer ce thème concernant l'importance de la prise d'initiative, lié également à l'affirmation de son propre style de jeu. Beaucoup de joueurs et de joueuses se plaignent de faire trop de fautes. C'est aussi souvent ce que l'on entend dans la bouche des coachs, des parents, des commentateurs, voire même des joueurs eux-mêmes dans leurs commentaires d'après-match. Si la faute peut être provoquée par le joueur ou la joueuse adverse, il n'empêche que le fait d'avoir des intentions claires dans son propre jeu favorisera le gain des échanges, ou tout du moins évitera de prendre l'eau face à une adversité plus forte. En mettant pour le moment de côté le style de jeu propre à chacun, il est d'avis général de penser que lorsque vous frappez la balle sans avoir une intention bien définie en tête, cela risque fort de ne pas être efficace. Surtout si votre adversaire n'a de son côté aucune hésitation sur ses propres intentions. Il y a deux types de conséquences lorsque vous jouez sans intention claire. Soit des fautes directes, plus ou moins provoquées, soit des frappes de balle remises sans conviction qui vont engendrer une prise d'initiative chez l'adversaire et donc souvent la perte de l'échange. Quand la tête veut, les jambes peuvent. Tout part de là. C'est bien notre cerveau qui tient les commandes et qui va nous dicter ce que l'on doit entreprendre pour faire face aux défis proposés sur le court. Oui, il faut de la confiance en soi, mais pas seulement. Il faut aussi apprendre à se connaître, à se créer un style de jeu qui s'adaptera du mieux possible aux contraintes de chaque situation de match. Les entraînements permettent de mettre la technique et le physique au service de la tactique, mais c'est bien l'aspect mental qui interviendra le plus lors du jour J, dans le cadre des matchs. Je ne reviendrai pas sur l'aspect mental, nous en avons déjà parlé lors d'une émission précédente, je développerai plutôt l'appartenance à un style de jeu, je dirais même plus un style de joueur. Il en existe plusieurs, comme par exemple le joueur plutôt attaquant avec un jeu agressif, cherchant à rompre l'échange, soit par un point gagnant, soit en provoquant une faute adverse. Ou encore le style de joueur plutôt contreur, qui utilise chaque balle un peu plus rapide de l'adversaire pour s'appuyer sur celle-ci, et réussir à inverser la tendance pour faire la différence. Ça marche aussi sur les retours de service notamment. Chacun doit se sentir en accord avec son style, afin de prendre du plaisir sur le terrain, et donc pouvoir développer au mieux son jeu. En théorie, ça paraît simple, mais il y a toujours cette partie de soi-même qui peut provoquer des doutes. Pour y faire face, il ne faut jamais oublier que le tennis est un sport. Un sport qui s'exerce sous forme de jeu. Ce jeu, je le définirai sous trois formes au tennis. Le jeu du moi, qui me définit moi-même, qui je suis, quel est mon style. Le jeu qui me permet de compter et de suivre l'évolution de mon score. Il est ma motivation pendant chaque set, à chaque match. Enfin, le jeu qui me permet d'être là, sur le court, celui pour qui j'ai plaisir à exercer et à me dépenser. C'est sur cette troisième forme du jeu que j'interviendrai la prochaine fois, car il est bel et bien au centre de notre pédagogie, à tous les niveaux. Merci pour votre écoute. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt.
Avantage.
Pour compléter cette brillante démonstration, citons Bill Tilden. Ne jamais donner à votre adversaire l'opportunité de jouer un coup qu'il aime. Julien, un Parisien, a donné la bonne réponse à notre quiz tennis d'avril. Martina Navratilova détient le record de victoires en simple dans le même tournoi. Elle totalise en effet 12 victoires à l'America Cup de Chicago de 1978 à 1992, tournoi qui a disparu du circuit en 1997. Prêt pour un nouveau quiz tennis ? Voici un indice. Bien malgré lui, il est devenu célèbre en concédant le premier triple 6-0 de l'Air Open en Grand Chelem. Je redonne l'indice. Bien malgré lui, il est devenu célèbre en concédant le premier triple 6-0 de l'Air Open en Grand Chelem. Vous pensez avoir la bonne réponse ? Pour jouer, c'est très simple. Allez sur le site radiogalaxy31.com, cliquez sur l'image Oxytennis pour donner votre réponse. La première personne à donner la bonne réponse se verra remettre un cadeau offert par notre partenaire Sport 2000 avec les magasins de Caser et Fonsorbe. Sport 2000. Toute l'équipe d'Oxytennis vous donne rendez-vous le samedi 5 juin à 12h30 sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain, et nous parlerons des jeunes pour la dernière mission avant les vacances.
Dernière manche.
D'ici là, soyez prudents. Vous pouvez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Oxytennis de RadioGalaxy31.com.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café ?
Je peux pas jouer tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.